France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, en effet, nous voici à Strasbourg pour un programme alsacien avec d'abord Jérémy Rohrer qui ouvrira la nouvelle saison de l'Opéra du Rhin, le plus admiré des jeunes chefs mozartiens, a en effet bien d'autres cordes à son arc de l'opéra comique à Courtweil. Auprès de moi également Louis Auster, ou un demi-siècle de vie musicale strasbourgeoise, lui qui fut président du Festival de Strasbourg et du Cercle Richard Wagner, mais aussi passionné d'opérette. Et puis en seconde partie, l'ensemble Volteifel qui revisite les traditions alsaciennes et la compagnie Opéra Piano qui porte la bonne parole d'Offenbach, notre cher Offenbach qui a d'ailleurs mis en musique les Alsaciens.
Je suis alsacienne.
Je suis alsacien.
Quand une alsacienne
soit un alsacien,
elle reste alsacienne.
Il reste alsacien.
Nous sommes de vrais alsaciens.
Oh 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 oh. Vivent nos ballades, nos vieilles chansons,
nos folles gobelins sur les frais gazons.
C'est en nos familles qu'on voit, Dieu merci, les plus belles filles.
Je dois croire ainsi.
C'est en nos villages qu'on voit de tout temps des heureux ménages de nombreux enfants.
Oui, dans nos villages qu'on voit de tout temps.
Oui, beaucoup d'enfants
qui, comme père et mère, chantent d'une voix fière.
Qui, comme père et mère, chantent d'une voix fière.
Oh, 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 la vie est vraiment un délice. Oh, oh, la vie est vraiment un plaisir. Oh, oh, la vie est vraiment un délice. Oh, oh, la vie est vraiment un plaisir.
Rien ne vaut à nos montagnes, nos vallons, nos torrents. Rien ne vaut à nos campagnes et nos prés odorants. Au pays d'où nous sommes, je sais qu'on dit aussi n'avoir que de bons hommes. Croire ainsi. Bref, aucun mortel fût un Anglais ou Danois ou Turc ou Grec ou Russe, Suisse, Italien, Hongrois ne peut à notre manière chanter d'une voix fière. Chanter, chanter, oui, d'une voix fière. Oui, chanter d'une voix fière.
Alsacien. Quand une alsacienne
soit un alsacien,
la main dans la sienne,
formant leur lien.
Top dit l'alsacienne,
top dit l'alsacien.
Oh oh, la vie est vraiment un délice. Oh oh, la vie est vraiment un plaisir. Oh oh, la vie est vraiment un délice. La vie est vraiment un plaisir. La vie est vraiment un délice. La vie est vraiment un plaisir.
Et vous aurez peut-être reconnu les voix de Madeleine Renaud et Pierre Bertin dans Lischen et Fritschen d'Offenbach. J'imagine, Louis Auster, vous, grand spécialiste de l'opérette, que vous connaissez cette petite œuvre.
Bien entendu, malheureusement, trop peu donné.
Trop peu donné. Ça ressemble un peu à la vraie vie alsacienne que vous avez peut-être connue, mais qui, dans les campagnes, ce petit duo charmant.
C'est très bien fait, oui, en effet. C'est presque... pris sur le vif.
Pris sur le vif, voilà, un enregistrement de 1932. Merci d'être avec nous, Louis Auster. Je disais, vous êtes vraiment l'incarnation de la vie musicale strasbourgeoise dont nous parlons aujourd'hui dans cette belle salle de l'Aubette, place Kléber, où d'ailleurs vous pouvez nous rejoindre, chers auditeurs. Oui, Louis Auster, je disais, vous avez découvert simultanément l'opéra et l'opérette à Strasbourg, à l'opéra en 1942.
Oui, alors il faut dire que c'est du temps de l'occupation et qu'effectivement, l'administration allemande voulait effectivement faire de Strasbourg un très grand théâtre d'opéra. Mais le chef, qui était Hans Rosbaut, a lui aussi intercalé de l'opérette. C'est remarquable. Et donc, j'ai découvert d'abord Vie dans Blut, Sang viennois, de Johann Strauss.
Donc une opérette.
Une opérette, et comme j'ai été fait absolument extraordinairement impressionné par cette opérette et par la qualité de l'interprétation, je suis allé voir le lendemain après-midi Madame Butterfly.
Voilà, et également dirigée par Rosbaud aussi.
Alors, l'opérette était dirigée par Robert Stoll et le... Butterfly par Madame, par Robert Bout.
Excusez du peu, c'était pas mal comme initiation à la musique et à l'art lyrique.
Oui, mais il faut dire que c'était facile puisqu'on jouait tous les soirs dans la salle.
Alors voilà, bon, ça, vous l'avez dit, c'est aussi l'occupation, c'est pas évidemment la période la plus drôle de l'histoire alsacienne, mais cette histoire, vous l'avez depuis connue en continuité parce que vous n'avez jamais cessé d'aller à l'opéra.
Oui, parce que l'administration française s'est bien rendu compte que l'Allemagne avait effectivement fait ici un point fort, pas de reste,
pour
qui
la musique,
était vraiment totalement négatif. Mais pour la musique, c'était tout à fait extraordinaire, puisqu'on terminait par le Crépuscule des dieux. C'est la dernière œuvre que Rosbaut avait dirigée.
Avant la fin de l'occupation, avant la fin de la guerre.
Oui, oui, en 44.
Alors, on va reparler de tout cela tout à l'heure ensemble, si vous voulez bien, de cette histoire de l'opérette à Strasbourg, avec vous, Louis Oster. Et puis, je suis content également de vous présenter, pour l'occasion, le chef d'orchestre qui va diriger la rentrée de l'opéra. C'est Jérémy Rohrer qu'on retrouve tout de suite.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors vous dirigez dans quelques jours le concert de rentrée de l'Opéra de Strasbourg. On va en parler de ce programme et de vos goûts musicaux dans un instant, mais vous avez déjà vos habitudes dans cette ville ou c'est une première pour vous ?
C'est une seconde, et en fait très rapprochée de la première. J'ai dirigé l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg en avril dernier.
Ah voilà, et vous avez, ça s'est bien passé, vous avez noué de bonnes relations musicales avec l'opéra.
Ah oui, absolument,
l'orchestre.
En fait les deux engagements étaient concomitants, ils sont liés, pour celui dont vous parlez, à mon amitié avec Eva Klanis qui vient d'être nommée...
La nouvelle directrice de l'opéra.
Oui.
Et avec lequel, on en dit juste un mot parce que c'est pas vraiment notre principal sujet aujourd'hui, mais quand même avec laquelle vous allez donner un programme qui mélange théâtre et musique. Même si c'est pas de l'opérette.
Oui, qui mélange en fait ses aspirations. Eva est une connaissance, je dirais pas vieille, mais avec laquelle j'ai partagé de nombreuses discussions, des réflexions sur la programmation, sur justement l'éclectisme des goûts. Elle a une fascination pour le Japon qui va être présent dans sa première saison, ce qui justifie la présence de Madame Butterfly. Et je lui ai souvent parlé de mes envies, parfois de mes frustrations vis-à-vis de certains répertoires. Et donc il a été conçu comme une sorte de reflet de nos discussions et de notre amitié.
Mais avec orchestre, chanteur et comédien.
Et comédien, bien sûr, oui, et différents types de théâtre. Enfin, je peux pas tout dévoiler, mais effectivement, ça a été conçu comme un spectacle de gala. Voilà. Qui mêle différents arts. Oui.
Voilà, alors ça c'est dans quelques jours donc à l'Opéra du Rhin, et ça s'ouvrira d'ailleurs, continuons en musique alsacienne si l'on peut dire, ça se continuera avec l'ouverture de l'Opéra d'Offenbach, L'Effet du Rhin. Thank you. L'orchestre Philharmonia sous la direction d'Antonio de Almeida, c'était Die Rheinixen ou les Fées du Rhin, l'ouverture de cette œuvre étonnante d'Offenbach, Jérémy Rohrer, puisque c'est en fait, on peut dire, la barcarolle des contes d'Hoffmann, mais en version d'orchestre.
Absolument, et c'est une pièce ravissante, complètement éthérée, et qui montre une orchestration qui est à la fois un héritage de toute la culture berliozienne et complètement acquise. Et qui projette dans une sorte de simplicité et une évidence délicieuse. C'est un bonheur à répéter.
C'est l'ouverture de votre concert, oui. D'ouverture de la saison d'Opéra du Rhin.
Absolument. Hein.
Voilà, donc ça a évidemment d'autant plus sa place ici. J'en profite d'ailleurs, il y a un peu de Mozart dans le programme, mais c'est vrai, Jérémy Rohrer, que alors je regardais la presse, le grand mozartien, le nouveau mozartien, le chef mozartien, etc. Vous êtes un éminent, merveilleux chef mozartien, mais vous n'êtes pas que mozartien.
Vous savez, c'est très très difficile d'avoir d'abord de parler de soi, mais d'avoir du recul sur ce que Mozart fait partie évidemment des musiciens que j'admire depuis mon enfance, comme beaucoup de musiciens.
Bien sûr.
Et il se trouve que j'ai commencé à diriger en dirigeant Mozart. Et finalement, ça a été le moment où j'ai pu commencer à m'exprimer. Et vous savez, le système fait que
on est un peu enfermé avec. On a une étiquette en tout cas très vite.
Très très vite enfermé. Ouais. Mais ce que je trouve un tout petit peu dommage avec Mozart, c'est que c'est comme c'est le maître de tous les musiciens, ça devrait pousser l'imagination des programmateurs à ouvrir vers d'autres répertoires. En réalité, c'est plutôt le contraire qui se passe. On a l'impression que voilà, ça c'est, on envisage ce répertoire comme une limite, alors qu'il est la base de c'est ce que j'essaie de démontrer, il est la base de tout le développement du romantisme.
Et moi qui vous connais assez bien, je sais que vous avez mille autres passions musicales, que ce soit l'opéra comique, le grand répertoire symphonique, la musique moderne, la musique du XXe siècle, tant de curiosités. Et alors, j'ai l'impression que vous avez un petit peu aussi voulu, dans ce programme de l'Opéra du Rhin, illustrer, j'ai envie de dire, certaines facettes de l'opéra qu'on pourrait dire romantique et populaire, qui ne sont pas forcément celles qui sont les mieux vues d'un certain bon goût musical, avec notamment par exemple des pages de Tchaïkovski ou de Puccini qui vous sont, je crois, très chères.
Oui, enfin, ça dépend de quel pays on parle. Vous avez raison, en France, effectivement, ce sont des compositeurs qui ont mis du temps à s'imposer, encore que ça change aujourd'hui avec certaines internationalisations. Mais c'est vrai, je vais vous confesser qu'au conservatoire, en classe d'analyse, quand je portais ces compositeurs comme sujet d'analyse, j'étais souvent mal reçu, comme par exemple...
Il n'y avait rien à analyser, en somme.
Il n'y avait aucune prospective, il n'y avait pas d'enjeu analytique à proprement parler. Et finalement, l'admiration purement musicale que j'avais pour ses œuvres, qui était immense, ne justifiait pas des péroraisons intellectuelles. Donc, j'en parle avec amusement, mais si vous voulez, ça a quand même conditionné ma pensée musicale, et je trouvais ce jugement absolument injuste, et ça m'a déterminé à aborder les œuvres non pas pour ce qu'elles représentent vis-à-vis de la société, mais comme musicien, je tiens toujours à programmer les œuvres que je trouve intéressantes pour ce qu'elles sont.
D'où Eugène Onéguine ou Madame Butterfly, qui sont très à l'honneur dans ce programme de l'Opéra du Rhin.
Oui, Puccini, qui s'il est célébré internationalement, fait effectivement l'objet souvent du point de vue intellectuel d'une sorte de rejet, parce qu'il ne serait pas à la hauteur des enjeux du 19e et du 20e siècle. Or, quand on analyse ces partitions de près, on se rend compte à quel point l'orchestrateur, le penseur, le dramaturge et finalement le musicien a été fondamental dans l'évolution du discours musical.
Alors je vais faire encore plus insulte au bon goût, vous me direz ce que vous en pensez, en écoutant Madame Butterfly dans un arrangement très personnel conçu pour Yvonne Printemps, en français, au sein du pot-pourri d'Alain Gerbaud. Oh, Je vous l'ai dit, on s'éloigne très vite de Madame Butterfly. C'est un document merveilleusement tendre et poétique. Le pot-pourri d'Alain Gerbeau par Yvonne Printemps. Ça me donne envie d'ailleurs de demander à Louis Oster, en 1942, Madame Butterfly sous la direction d'Hans Rosbaud à Strasbourg, c'était en italien ou en français ?
Non, c'était en allemand.
Ah, en allemand, pardon. Voilà, bah oui, on jouait tout en allemand.
On jouait tout en allemand, à l'époque, oui.
Voilà. Et vous, Jérémy Rohrer, la question des langues dans ce répertoire populaire longtemps traduit, vous êtes évidemment, je suppose, résolument pour les versions originales et la langue originale.
Ah oui, surtout dans le cas de Puccini et Giacosa, où le texte est vraiment absolument sublime quand on connaît l'italien. C'est vraiment une expression tellement ciselée, tellement inspirante musicalement. Effectivement, ça fait partie intégrante de l'expression de la ligne mélodique. Donc.
Je précise que vous serez donc à l'Opéra du Rhin pour cette soirée d'ouverture en compagnie de plusieurs chanteurs, hein, Scott Hendricks, Abdellah Lasri, Vanina Santoni, Carasone, Marie-Ange Todorovitch, donc c'est vraiment un plateau vocal autant qu'orchestral. Je précise aussi, Jérémy Rohrer, puisqu'on parle un peu de vos chemins de traverse aujourd'hui, que vous êtes venu à la musique par la voix, par le chant et par la maîtrise de Radio France. Hein.
Ah oui, absolument, c'était l'expérience fondamentale en chantant dans la Damnation de Faust de Berlioz sous la direction de Colin Davis. J'ai eu la chance d'avoir une expérience initiatique absolument unique parce que j'avais pratiquement jamais vu un concert, je pense. Et donc, quand on chante comme petit garçon, on est face au chef d'orchestre. Donc, on a un rapport au chef d'orchestre qui est complètement différent et qui est...
C'est comme un géant.
Mais c'est pas, si vous voulez, je me souviens très bien de l'image que j'avais et pour être clair, il n'y avait aucune idée de pouvoir... à part celui que la baguette avait sur le son, parce qu'on avait l'impression d'une représentation physique du son qui se mouvait devant nos yeux et qui était juste actionné par cette baguette et l'expression des yeux du chef, en l'occurrence Colin Davis, et c'était absolument magistral et merveilleux, et ça m'a ouvert les portes d'un nouveau monde que je voulais plus quitter.
Parmi les rencontres étonnantes aussi, pour quelqu'un de votre génération en tout cas, de ces grands amoureux de l'art lyrique sous toutes ses formes, il y a eu celle de Gabriel Dussurgé.
Ah oui, absolument délicieuse.
C'est comme... Le fondateur du Festival d'Aix-en-Provence, je rappelle pour nos auditeurs, et grande personnalité, grand amoureux des chanteurs, dont il a été souvent aussi l'agent pendant de longues années.
Oui, et puis un personnage, c'est curieux, comme parfois l'accès à un monde de culture dépend d'une poignée de main ou d'un geste de bienveillance. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami à Aix-en-Provence, et il avait une capacité d'accueillir et d'encourager à aimer l'art lyrique qui était absolument exceptionnelle, que je n'ai pas revu depuis, à vrai dire, qui était sincère, ouais. Enveloppante et qui n'était pas élitiste, c'est-à-dire que vraiment il avait la volonté de transmettre, d'accompagner les artistes qui soutenaient. Bon, ouais, ça, je pense que c'est aussi une de ses caractéristiques, d'agir en dehors des modes et des conventions et de tenir à une ligne qui était la sienne, qui s'était fixée en toutes circonstances, et ça rejaillissait dans la façon qu'il avait de se relier aux jeunes et aux jeunes que j'étais à cette époque-là.
Jeunes qui écoutaient les Bee Gees.
Ah non, non, enfin j'écoutais tout à vrai dire, mais...
Enfin, vous avez fait des analyses très pointues de la structure harmonique des chansons des Bee Gees.
Non mais, c'est-à-dire, encore une fois, j'aime beaucoup juger la musique pour ce qu'elle est et pour son artisanat, et parfois, effectivement, comme musicien, quand on connaît la musique de l'intérieur, il y a des rapprochements qui peuvent paraître saugrenus, et qu'ils sont pas du tout, parce que ces musiciens de jazz ou de musique pop ont en fait une culture classique absolument extraordinaire.
Voilà.
Vous les connaissez aussi bien que moi, Benoît, mais des gens comme Quincy Jones, non seulement ils connaissent absolument toute l'histoire du jazz, mais aussi ils vivent pour Stravinsky, Prokofiev et Shostakovich.
Quelqu'un aussi qui était un peu à la frontière des mondes, et je sais que vous aimez beaucoup ce duo, c'est André Messager. On va écouter un petit duo chanté par Michel Danse et Liliane Berton, extrait de Monsieur Beaucaire.
La fleur soit mienne, dès ce soir que je l'obtienne, et sans plus rien m'accorder, vous n'avez qu'à commander.
Greffez-moi, propos fin.
Non pour moi, mot divin.
Serment d'amour vol, vol fidèle.
D'amour vole, vole, fidèle, attire d'elle. Mais qu'importe à mon timon, mais dans l'âme frivole, folle, folle, comment des âmes molles, au danger je vole.
Des merveilleux duos de Monsieur Beaucaire, d'André Messager. Et vous savez, Jérémy Rorer, j'espère que vous l'enregistrerez un jour, parce que, vous voyez, ces enregistrements sont vocalement très beaux, mais il y a tout un tissu orchestral derrière qu'on n'entend pas très bien. C'était peut-être les techniques d'enregistrement de l'époque où les voix étaient très en avant. Je suis sûr que vous feriez ça très, très, très joliment, non ?
Oh bah, je vous remercie. C'est vrai que c'est ce qui caractérise Messager, cette espèce de science de l'accompagnement et de la vie rythmique, oui, qui permet à la ligne mélodique d'être aussi limpide et fraîche.
Donc, si un directeur vous propose de le faire un jour, vous ne direz pas non?
Ah, moi, absolument pas. Mais vous savez, j'ai jugeais la musique sans a priori, justement, au conservatoire. Et je pense, c'est pas cet extrait, mais un extrait de Fortunio que j'ai entendu à la radio. Je ne savais absolument pas qui était Messager. Et je découvrais à peu près toutes les musiques. Elle m'a semblé absolument charmante et surtout élaborée, en fait, dans sa simplicité. Et j'ai demandé à un ami ce que c'était. Il m'a dit que c'était Messager.
Et voilà.
Et voilà. le goût ne m'a pas quitté jusqu'à présent.
Donc l'opérette, l'opéra comique, on va y revenir, ce sont des domaines ouverts pour vous, j'espère, au cours des années à venir, puisque vous dirigez aussi, finalement, vous avez dirigé plusieurs fois l'Orchestre Philharmonique de Vienne, on peut imaginer que vous adoreriez un jour, si ça se présente dans quelques années, être invité à diriger le concert du Nouvel An et à donner un programme de valse et de polka.
Oui, j'adorerais, mais j'essaierais d'introduire justement une sorte de tradition un peu française, avec en particulier Delibes.
Oui,
qui est un compositeur très important, et très important aussi dans la formation de Tchaïkovski. En fait, on ignore beaucoup à quel point il a compté dans
pour les ballets de Tchaïkovski.
Pour les ballets, évidemment, qui sont des œuvres absolument parfaites, les sommets du genre. L'influence de Delibes, en particulier ses audaces harmoniques, on soupçonnerait pas ça. Uh-huh. Et justement, son intelligence de la danse ont énormément influencé Tchaïkovski, qui avait cette culture française vraiment chevillée au cœur.
Alors, on vous attend parce que vous n'êtes pas très très nombreux à vous intéresser malheureusement à ce répertoire, de même que vous avez aussi déjà un peu défriché au moins une partie du terrain dans le domaine de l'opéra comique. Alors là, on remonte un peu plus loin dans le temps, mais c'est vrai que notamment au cours des années des débuts de Jérôme Deschamps à Favart, on vous a vu dans un certain nombre de productions, à Versailles également, de Grétry, d'Aubert, de Cherubini. C'est peut-être encore plus oublié que le répertoire d'opérette, ce répertoire du XVIIIe siècle.
Ça dépend où. En France, c'est complètement oublié. Ouais. En Italie, on les célèbre encore. Cherubini et Spontini sont extrêmement appréciés, même des grands maestros comme Muti s'y sont intéressés. Je trouve qu'ils sont fondamentaux dans la compréhension qu'on a des grands génies qu'on connaît aujourd'hui, comme par exemple Wagner et Berlioz. Ouais. C'est-à-dire qu'on imagine mal à quel point la formation d'un Berlioz dépend beaucoup moins de Mozart et Haydn que d'un côté Beethoven et Weber et la tradition française qui commence avec Méhul, Gossec, et dont Cherubini et Spontini sont des héritiers. Et c'est amusant de voir, par exemple, dans le traité d'orchestration de Berlioz, à quel point le nombre d'extraits de Spontini est le même que celui consacré à Beethoven.
Ah oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est vraiment les références.
Oui, c'est une tradition. C'est curieux, c'est comme un retour des choses. C'est l'influence de la dramaturgie française qui, par le truchement de Berlioz, va réinfluencer Wagner. En fait, ouais. Tout ça est lisible quand on connaît les petits maîtres autour. Enfin, les petits maîtres. Pour Spontini, je pense que c'est plus que ça. Cherubini, je comprends, certains hésitent, il n'est pas forcément évident. Spontini, la force du drame, vraiment, permet de comprendre Berlioz et Wagner immédiatement.
Mais vous avez notamment enregistré un très bel opéra comique de Cherubini, un opéra qui date de l'époque de la Révolution, un opéra fantastique autant que comique, d'ailleurs, qui s'appelle Lodoïska.
Oui, je m'y suis intéressé parce que, vraisemblablement, il a influencé Beethoven dans la composition de Fidelio. Très franchement, je n'ai pas vu comment il avait pu l'influencer, mais ça donne une idée de l'importance de ses maîtres sur des figures comme Beethoven. J'étais marqué aussi de voir dans certains portraits de Brahms, devant son piano, il y a un portrait de compositeur derrière lui et c'est Cherubini.
Eh oui,
Donc ça donne vraiment une idée de la manière dont ces gens existaient à l'époque.
Alors je propose d'ailleurs qu'on écoute un petit extrait justement de ce Lodoïska sous votre direction, Jérémy Rohrer. C'est un passage dans le final de l'acte 2 et on voit tout de suite la qualité et la vitalité de cette musique, et aussi peut-être cette chose qui est propre à l'opéra comique français, qui est le sens du théâtre en musique, du dialogue, de la parole mêlée avec la musique. Peut-être c'est vraiment une des caractéristiques de cette école, non?
Oui, c'est l'influence directe de Gluck qui a transformé l'opéra juste quelques années avant. C'est vraiment, on sent que ce monde de la dramaturgie de l'opéra est brassé en ébullition en France.
Bon, bon, les voilà qui s'y viennent. Bon, bon, les voilà qui s'y viennent. Nous allons bientôt tout savoir. Bientôt, ils n'y vont plus rien voir. Bon, bon, les voilà qui s'y prennent. Les voilà qui s'y viennent. Bon, bon, ils n'y vont plus rien voir. Nous allons tout savoir. Bon, bon. C'est
tout trouble dans un moment tout verracoule. Au ciel, autour, autour de moi, oh, je te crois de bonne foi, mais, mon Dieu, je n'y crois, combien faut les voir si l'on nous
observe, observe,
observe,
observe,
observe, comme si moi ne rien. Je n'y vois qu'autre, bon, bon, je vois tout trouble, bon, bon, tout tourne autour de moi,
mais c'est égal,
observe,
observe,
mais c'est
égal.
Lodoïska de Cherubini sous la direction de Jérémy Rorer avec le Cercle de l'Harmonie, les éléments et beaucoup de chanteurs, une très belle œuvre. Merci de l'avoir enregistré, Jérémy Rorer. Merci d'avoir dirigé Fra Diavolo d'Aubert aussi. On espère vous revoir sur ce terrain-là dans les prochaines années également.
Avec grand plaisir. Je pense que c'est, enfin, beaucoup de gens aujourd'hui retravaillent sur cette partie du répertoire qui a été très longtemps sous-estimée.
C'est la suite naturelle du mouvement baroque, on peut dire.
C'est-à-dire, au-delà du mouvement baroque, ce qui est assez curieux dans le mouvement baroque, c'est qu'il y avait deux dimensions, si vous voulez. Il y en avait une qui était adaptée à un certain type de répertoire, mais en réalité, c'est une démarche intellectuelle. Voilà. C'est une démarche qui, finalement, au moment où la musique était sacralisée par l'enregistrement, retourne au compositeur, à la lecture du compositeur. Et je pense qu'elle s'applique absolument à tout type de répertoire. Parce qu'en réalité, avec le post-romantisme, Wagner et Strauss, toute une partie de l'héritage oral qui se transmettait de musicien en musicien a disparu. C'est pour vous donner un exemple, Richard Strauss critiquait énormément les tempi que prenait Wagner dans Mozart, dans l'interprétation des œuvres de Mozart. Et en fait, j'ai souvent réfléchi à ça, je pense que Wagner était le dernier dépositaire d'une sorte de tradition orale qui transmettait les bons tempi, Mozart se plaignant tout le temps, et dans ses lettres en particulier, de la lenteur des tempi envisagés, et en particulier pour l'air de la comtesse dans les noces, ce qui pourrait paraître très surprenant aujourd'hui. Mais donc ce moment où Richard Strauss critique Wagner montre à quel point il y a vraiment une sorte d'arrêt de la
tradition du théâtre allemand, notamment.
Qui passait de ville en ville.
Ouais.
Pour figer une sorte de normalisation établie qui va devenir cette tradition que nous connaissons, avec encore des survivances, hein, parce que vous savez qu'avant la guerre, au Philharmonique de Vienne, on jouait encore sans vibrato.
Ouais.
Le vibrato est vraiment apparu juste après la guerre. Donc oui, c'est vraiment très très intéressant de voir que cette révolution dite baroque a en fait projeté un nouveau modèle d'approche des œuvres et que
qui
s'applique à l'ensemble du.
Alors Jérémy Rorer, donc on vous retrouve les 27 et 28 septembre à l'Opéra de Strasbourg, le 7 octobre à Mulhouse pour ce concert d'ouverture de la saison avec un programme très varié, Mozart, Tchaïkovski, Puccini, Kurt Weill, Massenet, Ravel, Offenbach et puis aussi des textes qui seront dits par le comédien Sébastien Dutrieux. On va en dire encore un instant, quelques mots dans un instant de ce programme et puis de votre amour aussi très important de la musique du XXe siècle.
France Musique en direct de Strasbourg.
Mais je rappelle que nous sommes à la grande salle de l'Aubette, place Kléber à Strasbourg, où vous pouvez toujours nous rejoindre, et je crois toute la journée sur France Musique, en compagnie donc de vous, Jérémy Rorer, et de vous, Maître Louis Auster, qui est un des plus grands avocats du barreau français, mais aussi un grand amoureux de la musique. Vous vouliez préciser ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait qu'on donnait Madame Butterfly en allemand ici pendant la guerre.
Oui, alors évidemment, le chef n'était pour rien. Simplement, on interdisait totalement l'utilisation de la langue française, sous peine de sanctions extrêmement graves.
Pas dans les opéras français, quand même.
Si, tout était effectivement traduit en allemand.
Ah oui, même si on donnait Carmen 40, au...
Entre 40 et 44, tout était traduit en allemand, obligatoirement. Et lorsque vous étiez en classe et que vous parliez français, vous étiez jusqu'à être exclu de l'école.
Ça, vous aviez l'habitude, parce qu'avant même la guerre, j'ai vu que vous aviez été exclu de Suisse, où vous aviez fait vos premières études.
Oui, mais ça, c'était notre problème, parce que je ne pouvais plus payer.
Ah, voilà. Et vous êtes donc revenu à Strasbourg, où vous avez mené cette grande carrière d'avocat et de passionné de musique, et notamment d'opéra. Je voudrais d'ailleurs, avant de retrouver Jérémy Rorer, que vous nous disiez encore un mot, Louis Auster, sur cette histoire parallèle de l'opéra et de l'orchestre de Strasbourg. C'est l'opéra qui a vu le jour d'abord, sans orchestre.
Alors, il faut dire que tout vraiment s'est passé en 1880.
Donc sous le régime allemand.
Sous le régime allemand. Il faut dire que le théâtre qui avait été construit en 1800 avait été bombardé pendant le siège de Strasbourg en 1871. Et donc il a été reconstruit et il y a eu alors aussi une chance qu'il y a un nommé Apfel qui a effectivement donné vraiment sa fortune pour l'opéra. Et donc on a à ce moment-là eu une sorte de rivalité entre le conservatoire d'une part et d'autre part l'opéra. Mais ça s'est rapidement stabilisé puisqu'il y avait un grand chef qui s'appelait Lose qui effectivement a compris que c'était inutile cette querelle intérieure.
Voilà, et donc finalement l'orchestre a été créé quelques années après l'ouverture de l'opéra.
Oui, il faut dire qu'à l'époque, l'opéra avait quand même une très belle troupe parce qu'effectivement il y avait 25 chanteurs soliste, il y avait un orchestre de près de 40 musiciens, il y avait effectivement des choristes qui étaient très nombreux, donc on pouvait faire évidemment un très beau spectacle.
Voilà, mais l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et l'Opéra du Rhin sont deux histoires totalement imbriquées en quelque sorte.
Très, très imbriqué, oui.
Voilà, et on va y revenir dans un instant à propos de l'opérette, qui a eu également beaucoup de place dans cette ville, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Mais je vous propose tout de suite d'abord de retrouver Jérémy Rorer dans un extrait du disque qui vient de sortir, je crois, hein, c'est le Don Giovanni du Théâtre des Champs-Élysées qui clôturait votre cycle Mozart, non pas encore.
A priori, non.
Alors, la prochaine étape, ce sera...
Je ne sais pas si je suis habilité à en parler. Non, bon. Oui, je suis désolé.
Bon, alors, on écoute en tout cas un extrait de ce très beau Don Giovanni qui vient donc de sortir en disque. C'est la première scène, juste après l'ouverture.
Vento sopportar, mangiar male, mal dormir. Voglio far il gentiluomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir, no, 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 non voglio più servir. Oh, che caro galantuomo, vuoi star dentro con la bella ed io far la sentinella, la sentinella, la sentinella. Voglio far il gentiluomo e non voglio più servir, e non voglio più servir, no, 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 non voglio più
servir. Ma mi par che venga gente, ma mi par che venga gente, non mi voglio far sentir, ma non mi voglio far sentir, non mi voglio far sentir, no, 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 non mi voglio far sentir.
Voilà l'entrée de Leporello, suivi par Don Giovanni, dans cet enregistrement qui vient de sortir. Vous nous rappelez peut-être, Jérémy Rohrer, qui sont les interprètes de cette magnifique version.
Alors le chanteur que nous venons d'entendre, c'est Robert Glidoux qui chante Leporello. Après, Donna Anna Hans et Mirto Papatanasiou, et Don Giovanni et Jean-Sébastien Bou.
Bon, vous ne nous dites pas quel est le prochain Mozart, mais comme je vois que vous les avez tous faits, sauf la flûte enchantée, j'espère, enfin je suppose, enfin on verra bien si c'est la flûte qui va donc conclure ce cycle Mozart tellement apprécié, admiré, applaudi, que vous avez mené depuis quelques années au Théâtre des Champs-Élysées, qui est une de vos maisons, on peut dire, hein, Jérémy Rohrer.
J'aurais pas cette attention, mais ils me font l'amitié effectivement de programmer les productions très souvent.
Quand je vous ai connu, Jérémy, à vos débuts de musicien, on parlait finalement pas tellement de Mozart ni de Puccini. Les conversations tournaient beaucoup, surtout autour de la musique du XXe siècle, de Stravinsky, de Ravel, que vous avez d'ailleurs fait figurer au programme de Strasbourg. C'était peut-être aussi votre vraie source d'énergie et d'enchantement musical dans votre formation.
C'était une des sources, mais Ravel, oui, c'est probablement pour le jeune étudiant que j'étais, la plus grande admiration. C'est une sorte de maîtrise absolue du langage musical qui était tellement inspirant, tellement aussi étouffant, parce que on a du mal à se projeter. C'est si parfait, on a du mal à se projeter dans cette sorte de connaissance absolue. Et bon, j'ai très tôt au conservatoire eu la chance de rencontrer un maître qui s'en rapprochait, même qui, à mon avis, l'égalait, Thierry Esquèche, avec lequel je pouvais parler de tous ces aspects de la musique et de la connaissance que j'étais en train d'élaborer.
C'est tout ça qui vous a fait devenir aussi compositeur.
Ah oui, absolument.
Même si l'étiquette chef mozartien fait qu'on ne sait pas forcément toujours suffisamment que vous êtes aussi et passionnément compositeur.
Mais si vous voulez, je pense que pour la direction d'orchestre, il y a un aspect fondamental. Il y a quand même deux types de chefs d'orchestre, ceux qui connaissent la composition, ceux qui sont capables de composer, et les interprètes qui des chefs d'orchestre qui sont plus dans une lecture globale. Moi, j'ai toujours été formé dans l'idée que le chef d'orchestre devait être capable de recomposer l'œuvre qu'il dirigeait.
Ah oui.
Et je pense que ça fait vraiment la différence, parfois même entre des chefs immenses, hein, comme Riccardo Muti par exemple et Bernstein. Quand on voit Bernstein diriger Mahler, on a vraiment le sentiment que chaque note est pensée, pré-pensée, recomposée. Et c'est ce qui donne sa dimension à la lecture de la forme et à ses articulations.
Vous arrivez à trouver du temps pour composer ?
Il va falloir que j'en trouve, parce que j'ai une commande du Philharmonia pour un concerto pour piano pour Jean-Yves Thibaudet.
Faut faire comme Mahler, faut prendre les grandes vacances, quoi.
Oui, mais aujourd'hui,
la vie musicale,
oui,
c'est l'été.
La vie musicale est concentrée l'été, oui.
Bon, vous avez cité Thierry Esquèche, je sais que vous aimez beaucoup aussi Guillaume Connaisson, sans du tout vouloir polémiquer. Vous êtes assez loin, en gros, de la musique contemporaine telle qu'on l'entend, par exemple, ici, au Festival Musica de Strasbourg.
Bah, c'est loin, je suis pas dogmatique, je suis toujours intéressé d'entendre ce qui se donne. Après, je ne m'interdis pas une lecture critique. Je veux vraiment rester un esprit libre.
C'est plutôt entre guillemets un néo-tonal.
Je sais pas comment vous l'appelez. Je dirais plutôt que je m'intéresse aux œuvres pour ce qu'elles sont et pas ce qu'elles représentent vis-à-vis de telle ou telle idéologie ou politique. Donc effectivement, par moment, je suis amené à critiquer certains aspects de la création contemporaine.
Voilà, bah écoutez, en tout cas, on attend avec impatience votre prochaine œuvre. Et puis, avant de se dire au revoir, on va écouter encore un petit extrait, bah, justement d'une œuvre contemporaine telle que vous les aimez. C'est le début de City Life de Steve Reich. Ouais. City Life de Steve Reich, un de vos maîtres à penser, si j'ose dire. En tout cas, un musicien que vous adorez, Jérémy Rorer.
Oui, absolument. Il représente une lecture vraiment contemporaine. C'est cette musique urbaine, la façon de la percevoir avec toutes ces mélanges de musique, ces influences différentes. Tout ça dans une structure élaborée, savante, un répétitif qui se transforme petit à petit. C'est fantastique.
Il sera pas au programme de l'ouverture de l'Opéra du Rhin, mais il y aura du Kurzweil que Steve Reich adore, tout comme vous, un programme très varié dont on a parlé. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Jérémy Rorer. Je rappelle que vous serez donc à partir du 27 septembre cette semaine donc à l'Opéra du Rhin pour ce concert d'ouverture. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci.
Et nous sommes toujours en direct de la salle de l'Aubette, place Kléber à Strasbourg, avec également mon autre invité, Louis Oster, grand amoureux, spécialiste de l'histoire de l'opérette, parce que vous êtes un wagnérien, vous avez été président du Festival de Strasbourg, vous avez vu tous les opéras, et ce goût pour vous est allé tout naturellement de pair avec l'amour de l'opérette, Louis Oster.
Oui, alors il faut dire que j'ai été impressionné par une formule que j'avais trouvée par hasard, qui est de Camille Saint-Saëns, qui effectivement dit que l'opérette est une fille de l'opéra, une fille qui a mal tourné, mais elle n'est pas sans agrément.
Voilà.
Et j'ai trouvé l'agrément, évidemment, de la musique dite légère.
Et d'ailleurs, tout jeune, étudiant encore, vous avez écrit un guide des opérettes du répertoire courant, dont j'ai l'ancienne édition chez moi, qui était un résumé de tous les, très pratique de tous les livrets d'opérettes qu'on jouait à l'époque.
Oui, alors c'est exact, mais ça m'avait été demandé par René Nicoli, qui était président des Jeunesses Musicales de France.
Voilà.
Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, après avoir fait un livret aussi sur les opéras.
Voilà, et ce livre a été repris dans une nouvelle édition chez Fayard, il y a une dizaine d'années. Vous l'avez réécrit en duo avec Jean Vermeil, ça s'appelle, on le trouve aujourd'hui en librairie, hein, « Guide raisonné et déraisonnable de l'opérette et de la comédie musicale », avec, là encore, des présentations de dizaines et de dizaines d'opérettes. Vous me disiez que vous les aviez presque toutes vues.
Oui, alors c'est exact. Il faut dire qu'à Strasbourg, on a eu beaucoup de chance.
Oui.
Lorsque vous aviez, effectivement, après 1870, la reconstruction du théâtre, le public voulait également de l'opérette. Et puis, à l'époque, les chefs d'orchestre, déjà, n'étaient pas tellement favorables à cela. Et donc, il y avait un théâtre de l'opérette qui s'était créé et construit dans le quartier de la gare. Bien entendu, en 14, ça a disparu. Et ensuite, il faut bien dire que Paul Bastide, qui en 44 a été nommé en 45 directeur de la musique, il avait un faible, non seulement pour ses œuvres, puisque c'est un très beau compositeur, qui a écrit Monsieur de Pourceaugnac notamment, mais qui effectivement estimait qu'effectivement il fallait donner à l'opérette sa place. Et donc, après 45, effectivement, il a été extrêmement prudent, puisqu'il y avait une partie de la population qui aimait l'opérette autrichienne ou allemande, et aussi l'opérette française. Donc, il panachait en quelque sorte. Alors, je vais vous donner simplement, par exemple, une saison, la saison 46-47, outre 14 opéras qu'on a montés, 14 opéras, dans une saison,
il a donné effectivement la bagatelle de 9 opérettes. Entre la valse de Vienne, la mascotte, la fille du tambour major, la veuve joyeuse, le pays du sourire, Princex Sardas, Véronique, Tsarevitch, Paganini.
Oh là là, vous faites mal, là, parce que qui pourrait imaginer ça aujourd'hui dans une grande ville française? C'est pas possible.
Et il faut dire que certains spectacles étaient montés 14 fois.
14 fois. Voilà, la place de l'opérette à Strasbourg, parfois, au lendemain de la Deuxième Guerre.
Oui, et parfois, évidemment, repris, parce qu'on avait le décor, et donc on pouvait reprendre l'œuvre.
Il faut dire aussi que Strasbourg est présent dans l'opérette. Alors, je vous ai passé un petit morceau de Lichen et Friedchen d'Offenbach tout à l'heure. Il y a aussi une opérette allemande du grand Franz Lehár qui s'appelle Frédéric, qui raconte l'histoire de Goethe du temps où il était étudiant à Strasbourg. Et il y a un chœur des étudiants de Strasbourg et puis aussi par exemple ce très joli petit duo qu'on va écouter là dans la version française.
Heureux celui bel Alsacien, heureux l'époux dont un doux baiser t'a fait sien. Ah, pourquoi cet époux-là n'est-il pas moi? J'aurais fait au bas mot quatre ou cinq jumeaux.
C'est un peu pour nous, et je crois qu'entre nous, vous vous pensez faux. On tire le verrou.
Celui bel Alsacien, heureux l'époux dont un doux baiser t'a fait sien. Ah, pourquoi cet époux-là n'est-il à moi? Ah, pauvre l'époux qui vit près de vous.
Franz Lehár, Frédéric ou Friedrich en allemand, Louis Oster, donc cette opérette, on peut dire, qui se déroule au moins pour deux actes, je crois, en Alsace.
Alors, deux actes se déroulent évidemment là, à la patrie de l'amoureuse, et puis un acte, le deuxième acte, ici à Strasbourg, voilà. Tout près d'ailleurs d'ici, à 100 mètres d'ici.
Voilà, alors évidemment, cette version française de Frédéric, on la donne jamais, mais comme de toute façon, on donne plus jamais de Franz Lehár du tout, malheureusement, il faudra attendre un petit peu pour redécouvrir ce répertoire franco-alsacien. On en écoutera d'autres illustrations dans un instant, mais dites-nous, donc vous avez évoqué ce premier âge d'or juste après la guerre, Louis Oster, et puis ça s'est poursuivi encore dans les années 50 et 60 pour l'opérette ici.
Ah oui, ça s'est poursuivi très longuement. Jusqu'à la création de l'Opéra National
du Rhin, l'Opéra du Rhin qui regroupait les trois villes, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.
C'était évidemment une idée de Germain Müller, qui était adjoint au maire et qui voulait faire des économies à juste titre ailleurs. Donc il avait pensé que Strasbourg aurait l'opéra, Colmar l'atelier lyrique et Mulhouse le ballet.
Oui.
Seulement il n'y avait plus de place pour l'opérette.
Et oui.
C'est ça le drame. Et alors, c'est très dommage, parce qu'effectivement, il y avait des essais, d'ailleurs, de faire de la place à l'opérette, lorsqu'effectivement, avant ce regroupement, on jouait certaines opérettes au théâtre La Comédie. Mais là-bas, le théâtre La Comédie, l'opérette était aussi trop, et on a pourtant joué des choses intéressantes, comme Dédé, de Christinet, ou Humans, Nonna Nanette. Alors, c'était fini. Et alors, il y avait le théâtre de l'Union, dans lequel on jouait effectivement aussi des œuvres. Et là, c'est le cinéma qui l'a remporté.
Et aujourd'hui, on peut dire que la place de l'opérette dans les programmations de l'Opéra du Rhin, elle est vraiment minime.
Hein. Elle est devenue minime, oui.
Elle est devenue minime. Par contre, il faut aussi donc rappeler que, outre cette œuvre qu'on vient d'entendre, par exemple, qui se déroule en Alsace, il y a aussi un certain nombre d'opérettes qui ont été créées à Strasbourg. Notamment, par exemple, il y avait un programme de décentralisation dans les années 50. C'est comme ça qu'on a donné ici le Moulin sans souci de Georges Jean Paris.
C'est ça. Et puis d'autres aussi, qui effectivement, il y avait même une œuvre qui était Prospectus,
oui,
qui était effectivement faite par Mario Hilrelli, qui était un archéologue, qui faisait de l'accordéon et qui avait écrit la musique, et Germain Muller avait fait le texte. Et Raymond Fogel, qui faisait toutes les mises en scène, qui ont beaucoup marqué ici, et qui ont fait dire à un moment donné que Strasbourg était devenue une ville où l'opérette était reine.
Oui.
Et bien, donc...
Et puis alors, c'est la tradition franco-allemande de Strasbourg. Il y a aussi des opérettes allemandes qui ont été données en création française à Strasbourg, encore, je crois, après la guerre. Je pense, par exemple, à Mask im Blau.
Oui, de Fred Raymond.
Grand compositeur inconnu en France, oui. Malheureusement, hein, d'opérettes du XXe siècle.
Mais qui a écrit de très belles choses. Oui. Aussi Meine Schwestern Tisch, qui a aussi été donné ici.
Alors, je vous propose, parce que vous nous avez attiré mon attention sur cette œuvre que je connaissais déjà un peu, mais que vraiment j'adore, Mask im Blau, dans lequel il y a un morceau qui est devenu très célèbre à l'époque, repris par tous les orchestres et les fanfares, qui s'appelle Sa, 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 Sa. Et puis, tout de suite après, la Walzer im Blau. Mask im Blau de Fred Raymond, un compositeur à redécouvrir grâce à votre livre, hein, Louis Auster, puisque c'est dedans, il y a quelques pages sur cette presque comédie musicale, on peut dire. Hein.
Tout à fait, oui, puisqu'il y a beaucoup de ballets.
Beaucoup de ballets. Vous continuez, ben non, vous continuez pas à aller voir des opérettes, puisqu'il n'y en a plus.
Si, nous allons à l'étranger.
Ah, voilà. Il faut partir très loin.
Mais par exemple, Lustigen Musikanten de Nibelungen de
Oscar Strauss, oui, une parodie de de Lord Durin et de
Nibelungen de Ring, oui, et qu'on va donner à Karlsruhe. Et puis nous allons effectivement aussi à Dresde. On a créé un nouveau théâtre d'opérette, tout neuf. L'année dernière, il a été inauguré. Nous allons également à Vienne, via la Volksoper. Vous avez effectivement de très belles œuvres.
Longtemps, vous alliez à Metz, mais il n'y a plus d'opérette à Metz non plus.
Alors, justement, ce qui était regrettable, lorsqu'effectivement il y a cette modification, on avait proposé à Metz de prendre l'opérette, parce que Metz faisait 4 à 5 opérettes par an. Et Metz a décliné l'offre qui a été faite. Et l'ennui, l'autre, c'était qu'à Mulhouse, on donnait des opérettes aussi. Et là, évidemment, comme ils avaient le ballet, ils n'ont plus fait d'opérettes.
Mais heureusement, en dehors des voyages à l'étranger, vous avez même à Strasbourg, une compagnie qui monte très joliment des œuvres d'Offenbach en particulier. On sera avec eux dans un instant. Ça s'appelle Piano Opéra. Ils font au moins un travail qui n'est pas tout à fait évidemment le travail d'une production professionnelle d'opéra, mais qui est vraiment assez réjouissant. Donc voilà, vous les connaissez, j'imagine.
Alors ils ont un mérite fou parce qu'ils sont essentiellement des bénévoles.
Voilà, on va les retrouver dans un instant, mais auparavant, on va parler un petit peu de musique traditionnelle alsacienne. Ça, c'est extrait d'un des coffrets de notre regretté Pierre-Marcel Onder. Ça s'appelle Entraîneau, polka alsacienne par Josef Graf. Et alors, je dois dire, moi, je croyais que c'était ça, la musique traditionnelle alsacienne. J'ai d'ailleurs une petite maison dans les Vosges où les gens ont l'habitude d'aller dans des bals en Alsace parce qu'il y a toujours beaucoup de bals en Alsace où on joue ce genre de répertoire. Mais en réalité, Diane Bouchali, qui est avec moi maintenant, c'est pas du tout ça, vous, ce que vous faites avec votre groupe, les Volteifel. C'est tout à fait un autre répertoire que celui qu'on associe généralement à la musique alsacienne populaire.
Oui, alors il y a des chansons qui se retrouvent dans les deux mondes, mais oui. On est allé chercher un peu plus loin dans la musique plutôt plus ancienne.
Plus ancienne, voilà.
Voilà, presque médiévale, je dirais, Renaissance en tout cas. Oui, voilà.
Et alors, quand j'ai vu, quand on a préparé l'émission, que j'ai vu le nom de votre groupe, mon sang m'a fait qu'un tour, je me suis dit, les Waldteufel, on va faire du Waldteufel, grand musicien de danse alsacien, mais non, ça n'a rien à voir, hein, c'est les Waldteufel.
Waldteufel, oui. C'est, voilà. C'est les diables de la forêt en alsacien.
Les diables de la forêt.
On voulait parler du diable et de la forêt parce que les chansons, elles tournent souvent autour de ces sujets-là, de la guerre, de l'amour, du diable qui emporte les gens.
Et le morceau que vous allez nous donner peut-être maintenant pour commencer devant le public ici à Strasbourg, c'est quoi ?
Ça s'appelle Errone Schatz, ça veut dire j'avais un amoureux. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui pleure son amant qui est parti à la guerre et qui va jusqu'à le chercher sur le front et demande au capitaine de le lui rendre. Et le capitaine lui dit qu'il ne peut pas lui rendre son amoureux et ils ont trop besoin d'hommes à la guerre.
Voilà, alors vous allez rejoindre les quatre autres musiciens. Dites-nous simplement les instruments qu'on va entendre.
Alors, il va y avoir Tom Freudenreich à la mandole, Paul Small au davoul, Fabrice Kiefer à la vielle à roue.
La vielle à roue, très jolie.
Et Xavier Fertin à clarinette basse.
Alors, on vous laisse les rejoindre. Merci. Et on va écouter tout de suite ce morceau donc, de musique traditionnelle alsacienne interprété par le groupe Waldteufel.
Ich hab ne Schatz, der ist Soldat. Da hat mir die Liebe versprochen. Er ist Soldat, er ist im Krieg. Wer hat das Unglück getroffen? So komm ich auf Straßburg bis an der Schanz. Da spiel Soldat ein lustiger Tanz. Sie spiel ja das für uns an, das du nach tun kannst.
Qu'on va retrouver tout à l'heure, Ishan Chet, j'espère que j'ai bien prononcé, ce morceau qu'on vient d'entendre, et cette façon, on l'a vu très, très libre en même temps, de revisiter le répertoire traditionnel, presque un peu free jazz par moment. En tout cas, c'est très beau, merci, on vous retrouve tout de suite, mais je voudrais aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on parle un petit peu avec la compagnie Opéra Piano. Bonjour Marguerite Voerlé.
Bonjour.
Et vous, donc vous êtes, si on en a bien suivi monsieur Louis Oster tout à l'heure, vous êtes les derniers à Strasbourg à défendre la cause de l'opérette régulière en tout cas.
Oui, c'est vrai. Donc, on est une association, on existe depuis 1982. Donc, on a un peu commencé, c'est assez rigolo de me retrouver ici à l'Aubette parce qu'on a créé Trémonicha de Scott Joplin ici.
Ah oui ?
Avec Rich Sabaï à la direction.
Vous étiez une bande d'étudiants passionnés d'art lyrique. Hein ?
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Hein.
Et pas spécialement d'opérette à l'origine ?
Non, pas spécialement, justement. Pas spécialement. On avait commencé avec une flûte enchantée, puis après... L'enfant et les sortilèges, on a monté Carmina Burana, et c'est vrai qu'on a rapidement dévié sur Offenbach.
Dévié, hein, mais vous avez bien dévié pour nous. Et Offenbach, encore Offenbach. Hein.
Oui, toujours Offenbach.
Toujours Offenbach.
Parce que, bon, c'est vrai que moi je suis très amoureuse du répertoire d'Offenbach. Et spécialement.
Vous avez une formation de chanteuse, par ailleurs.
Oui, j'ai une. Oui.
Au conservatoire, en avec fait, Rémi Corazza,
André Esposito, Simone Codinas. En fait, moi, j'ai découvert l'art lyrique à l'Opéra du Rhin avec une production de Jean-Pierre Ponel et Alain Lombard, c'était Turandot. Et là, c'était pour moi une découverte absolument extraordinaire. Et donc, j'ai commencé à faire du chant et voilà.
Alors, vos Offenbach, hein, ils sont très nombreux. Vous avez monté Le mariage aux lanternes, Pomme d'Api, Monsieur Choufleury, Les deux aveugles, Les brigands, La vie parisienne, Barbe bleue, La péricole, Orphée aux enfers, La belle Hélène et cette année encore La boulangère à des écus. Il y a eu une petite incursion chez Louis Gann avec
Les saltimbanques.
Oui. Mais vraiment, vous êtes des purs Offenbachiens. Alors, je sais, bon, les sons saisis en salle comme ça, c'est pas très très bon, mais quand même juste pour l'ambiance, un tout petit extrait qu'on va écouter maintenant de quelques morceaux extraits, je crois, de La boulangère des écus, votre production actuelle.
Sur cette place solitaire, avançons-nous à pas de loup.
La boulangère à des écus, un très bon choix, Marguerite Verlet, pour votre nouvelle production, parce que ça, c'est vraiment une œuvre qu'on entend rarement.
Qu'on entend très rarement. En fait, moi, j'étais très réticente à monter cet ouvrage, parce que, bon, l'héroïne s'appelle Margot, c'est mon petit nom, et je dirige l'entreprise familiale qui est une boulangerie.
Mais oui, j'ai vu ça, vous m'avez apporté des très jolis gâteaux, en plus, c'est gentil.
Donc, voilà, et donc, je me suis dit, bon... On y va, et ce sera l'occasion de fêter les 100 ans de l'entreprise familiale dans 2 ans.
Voilà, et vous avez auprès de vous ce matin Rémi Studer, bonjour, et Étienne Ferrer, bonjour, qui sont alors deux jeunes musiciens professionnels, l'un chef d'orchestre de la compagnie, l'autre chef de chœur. Comment vous êtes associés tous les deux à cette aventure d'opéra piano, Rémi Studer?
Alors, en 2015, on m'a contacté pour remplacer le chef d'alors, un peu au pied levé, puisque le travail sur La Belle Hélène avait déjà bien commencé. Et c'est vrai que le répertoire de l'opérette m'était quasiment inconnu, parce que c'est pas un répertoire qu'on étudie dans les conservatoires.
Comme nous le disait tout à l'heure Jérémy Rorer, oui.
D'ailleurs, je pense à tort, parce que j'ai tout de suite été confronté à tout un tas de difficultés techniques, parce que c'est finalement plus difficile de diriger un Offenbach que de diriger un Puccini, parce que techniquement, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Et donc j'ai été tout à fait séduit par ce répertoire-là, par le côté très enjoué et très sympathique, mais
aussi qui fait par ailleurs de la musique contemporaine et des choses très éloignées. Hein.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. J'ai une formation de compositeur contemporain. Oui, effectivement. Oui.
En tout cas, ça fait plaisir de vous voir dans Offenbach avec aussi Étienne Ferrer. Vous êtes élève de Théodore Guschelbauer, grand chef strasbourgeois pendant de longues années, et vous avez aussi ce goût.
Oui, mais en fait, moi, c'est arrivé en fait en arrivant à Strasbourg aussi, parce que j'ai commencé comme choriste dans la troupe, et parce que mon prof de chant chantait Paris dans La Belle Hélène, et ouais. Du coup, on est arrivé à quasiment tous ses élèves, on est arrivé pour renforcer le chœur, et puis là, ça a été un peu le virus. On chantait ça du matin au soir dans les couloirs de l'université, et Voilà, ça a pris.
La boulangère à des écus, vous la connaissiez ni l'un ni l'autre.
Non. C'est-à-dire que quand on a eu terminé ces deux ans avec la Belle Hélène, qu'on a quand même joué une petite vingtaine de fois.
Oui, c'est pas mal.
Entre 15 et 20 fois. Il s'agissait de choisir un nouveau répertoire. Donc, je suis passé chez Margot qui m'a filé une pile de partitions énorme. Et donc, j'ai vu cette boulangère qui a des écus, donc qui s'appelle Margot. Donc, elle disait tout à l'heure qu'elle était réticente, justement à cause de ça. Et moi, c'est justement
ce qui vous a donné envie.
Ce qui m'a donné envie de voir d'un peu plus près cette partition et de découvrir cette musique-là.
Marguerite Verlet, 20 représentations, c'est beaucoup. Alors, vous tournez dans toute la région de Strasbourg.
On tourne dans toute la région.
L'agglomération, l'Alsace.
L'Alsace, surtout dans les Vosges. On adore aller à Thaon-les-Vosges, où il y a une superbe salle, la Rotonde. Et puis là, avec la boulangère, on va à Raon-l'Étape.
Ah oui?
Oui, donc.
Vous connaissez bien le Théâtre du Peuple de Busson aussi, je crois.
Oui, alors, en fait, j'étais au conservatoire en même temps que Pierre-André Wetz. Et donc, lui, il travaillait avec des troupes alsaciennes. Et donc, moi, je lui servais de couturière.
Pour les
spectacles. Et donc, j'ai été deux fois à Busson, sous ses ordres, entre guillemets, sur La Mouette et sur la nuit au cirque d'Olivier Py.
Alors, on va réécouter tout de suite un autre petit extrait de La Boulangère à des écus. Ça, c'est le seul enregistrement que je connaisse, qui est en tout cas circulé pendant longtemps. C'est celui de Reynaldo Hahn lui-même, qui adorait cette œuvre et qui a enregistré en s'accompagnant au piano de petits extraits donc de cette œuvre d'Offenbach.
Les charbonniers, les fariniers ont le même sac, le même grand chapeau. Les charbonniers, les fariniers se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais pour celui qui sait bien voir, il y a un détail très important. Il y a un détail, il y a un détail, il y a un détail très important. C'est que le charbonnier est tout noir, et que le farinier est tout blanc. Tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont bons enfants, tout blanc. Oui, le farinier est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Tout blanc, les fariniers sont bons enfants. J'ai connu une petite femme qui était la femme d'un charbonnier. Et la même petite femme avait un amant qui était farinier. Son mari venait pour l'embrasser, puis c'était le tour de son amant. Elle passait sa vie à se brosser pour n'avoir pas de désagrément. Car le charbonnier est tout noir, et le farinier est tout blanc. Tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, les fariniers sont bons enfants, tout blanc. Oui, le fariniers. Le farinier est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont bons enfants.
C'était donc La Boulangère à des écus, l'enregistrement de Reynaldo Hahn. Vous connaissiez, j'imagine, Marguerite Verlet.
Oui, tout à fait. C'est le seul, d'ailleurs, qu'on ait trouvé à l'époque. Et ensuite, il y a eu sur YouTube un enregistrement fait par Lina.
Oui, effectivement.
Voilà. On a troupe de Radio Lyrique, je
oui,
pense.
Oui, on a. Ouais. Non, c'est le RTF fait ça. Oui. Mais alors, l'opérette est incomplète. Mais bon, on a quand même une bonne idée de l'orchestration, puisqu'en fait, on n'a pas retrouvé de partition. Ce qui a fait qu'on a dû faire un travail de réorchestration avec Étienne et un troisième compositeur. Oui.
Alors, on va redécouvrir donc avec vous et grâce à vous cette boulangère à des écus. Oui. Je précise simplement, Marguerite Verlet, que vous avez un site qui est très bien fait, hein, qui s'appelle Opéra Piano. C'est paradoxal d'ailleurs, parce que finalement, vous jouez toujours avec des orchestres.
Maintenant. Oui, mais au début, on a commencé avec du piano.
Voilà. Donc, on va sur Opéra Piano et on trouve toutes les dates de vos spectacles. Et puis, nous, on va retrouver tout de suite les Volteifel dans un morceau intitulé Teufelsgiga. Vous viendrez nous expliquer ensuite ce que ça voulait dire, donc ce morceau de viol alsacien.
Thank you. gern tüffels giga Hacks am Echt auf als er nix hat Ich schlau doch in der Vida Und du trösch mit in der Giga Stanz am Engla in der Rava Stanz am Beba in der Parga Später gern gern tüffels giga Und ohne Tanza in der Strosa
Volta Eiffel, rejoignez-nous, juste il nous reste quelques minutes, rejoignez-nous Diane Bucciali pour dire encore un petit mot de ce qu'on vient d'entendre. Un très joli groupe de musique traditionnelle alsacienne. Alors d'abord vous nous rappelez les noms des cinq musiciens qu'on vient d'entendre, outre vous-même Diane Bucciali, les quatre autres, et c'était Fabrice Kiefer qui nous rejoint également à l'accordéon, et puis...
Xavier Fertin aux clarinettes, Paul Small aux percussions et Tom Freudenreich à la mandole et au violon.
Voilà, c'est très beau comme musique, on découvre. Merci. Alors redites-moi Merci. Le vrai titre du morceau aussi qu'on vient d'entendre.
Teufels Giga, c'est le violon du diable.
Le violon du diable. J'avais l'impression aussi, je disais ça tout à l'heure, peut-être que je me suis trompé, je vous demande aussi Fabrice Kiefer, que vous avez une certaine liberté par rapport à la simple reconstitution d'une musique traditionnelle. On entend des sons qui sont un peu jazzy presque à la clarinette qui sortent de ces musiques campagnardes.
Voilà, donc en fait, c'est des chansons qu'on a trouvées. La première, c'était une chanson traditionnelle qu'on a trouvée dans des recueils de collectage qui ont été faits au 19e. Donc là, on va dire, il y a juste la mélodie et les paroles. Donc tout le reste autour reste à inventer.
C'est de l'improvisation aussi, quoi.
Donc on met toutes nos influences, toutes les choses qu'on aime là-dedans, du jazz, de la musique irlandaise, de la musique balkanique, de la musique du free jazz, comme vous dites.
Voilà, c'est ça, tout est là.
Et le deuxième, c'était une composition.
Voilà, et c'est, en tout cas, bravo à tous les deux. Vous venez de sortir un disque, hein, ça s'appelle
Les Valtés. On l'a sorti à l'hiver dernier, oui.
Voilà. Et puis vous-même, hein, Diana, vous avez fait plein de choses comme chanteuse dans plein de groupes, dans plein de styles différents.
Moi, j'ai une formation lyrique du Conservatoire de Strasbourg aussi. J'ai déjà chanté avec Marguerite, d'ailleurs.
Voilà, dans la troupe Opéra Piano.
Et Rémi.
Et vous-même, Fabrice, c'est quoi votre activité en dehors du groupe? Alors, accordéoniste à plein temps?
Accordéoniste et violiste.
Ouais. Et violiste.
À plein temps, ouais. Dans des styles variés, jazz, balkan, traditionnel.
Pas dans les bals traditionnels alsaciens dont j'ai dit qu'ils existaient encore un peu?
Ben non, pas ceux-là, non. Mais je fais des bals folk, donc c'est encore autre chose.
Très bien.
Et je joue aussi chez les personnes âgées, donc là, je leur sers... ce qu'ils aiment bien aussi.
Ce qu'ils aiment bien. Bah, écoutez, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci au Walt Eiffel. Merci Diane Bucciali, Fabrice Kiefer. Merci Maître Louis Auster de nous avoir si bien raconté l'histoire musicale de Strasbourg. Et puis, on espère vous retrouver pour le prochain épisode, peut-être la prochaine opérette à Strasbourg, si elle y remet les pieds.
Il faut l'espérer.
Il faut l'espérer. Merci à vous, Marguerite Vorlet, pour la compagnie
merci
Opéra
beaucoup.
Piano. Voilà, et c'est sur une vraie musique de Walt Teufel qu'on se quitte aujourd'hui, ce matin, pour cet Étonnez-moi Benoît, préparé par Annie Comier avec Emmanuel Lacaze. Prise de son, Alexandre Martin, Florian Alaï, Gilles Manet, Alain Pied. Réalisation, Sophie Pichon, que je retrouve pour l'occasion, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, chargé de production, Pascal Morel. Je crois qu'on se retrouve tous à 14h dans cette salle de l'Aubette, place Kléber, à Strasbourg, avec Gaël Le Gallic.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.